Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par un très bref résumé de la conférence précédente parce que, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, je m'attelle du mieux que je peux à explorer le graphe du désir et pouvoir vous en dire certaines choses. Et donc, en commençant de façon pas à pas, une flèche ou deux, pas plus. Donc d'abord la conférence de la fois passée où nous avons entendu Véronique Mariage. Véronique Mariage qui, au fond, a souligné que dans les chapitres qu'elle explorait, il y avait une question pratique pour l'analyste, à savoir ce qu'il fait dans le transfert avec le maniement de la question phallique. Alors, c'est... au fond, quelque chose qu'elle a déplié en nous indiquant que ça touchait à la question de qu'est-ce qu'était le désir de l'analyste et au fond, comment celui-ci pouvait opérer d'une part avec le phallus et d'autre part avec son manque. Et que une des choses à laquelle il devait être attentif, c'était au fond de laisser une place vide pour que le patient, le sujet, puisse lui-même venir dire quelque chose de son désir. Elle a ensuite commenté très largement, et je ne reprendrai pas tout ce commentaire, le texte de Maurice Bouvet que Lacan citait dans cette séance, texte dont le titre était « Incidence thérapeutique de la prise de conscience de l'envie de pénis dans la névrose obsessionnelle féminine ». Alors, sur base de ce texte, d'une part, et c'était la fin de son exposé, elle a déplié le cas de névrose obsessionnelle que M. Bouvet présentait, et d'autre part, elle a au fond commenté cette formule du fantasme chez l'obsessionnel que je vous ai réinscrite ici au tableau, mais que je ne redéplierai pas maintenant, comme elle l'a fait la fois passée. Et enfin, elle a réinsisté, mais je suppose, d'abord c'est quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois et sur lequel on sera amené à revenir plus d'une fois, qu'au fond, ce grand phi, on pouvait dire que c'était le signe du manque du signifiant. S.A., c'est l'écriture abrégée de signifiant, grand S, petit a. Voilà, j'ai rappelé rapidement ces points de sa conférence. Alors, je vais essayer de reprendre au fond le départ du graphe, de la construction du graphe du désir par Lacan, et je me suis appuyée sur deux textes. Le premier, le départ, parce qu'au fond il déplie le graphe dans tout ce séminaire, le départ du séminaire 5 qui s'appelle « Les formations de l'inconscient », donc vraiment le point de départ du séminaire. Pas tout le séminaire. Quelques points de repère aussi pris dans les écrits, dans le texte qui s'appelle « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien ». C'est un texte dans les écrits qui se trouve de la page 793 à la page 828. Alors, je vais peut-être rappeler... peut-être rappeler qu'au point de départ, avant de passer vraiment sur le graphe, la toute première flèche au fond qu'évoque Lacan, c'est celle-ci. Et cette flèche-ci, au fond, c'est notre parole qui défile, je vous parle, c'est la notion de linéarité de la parole qui se déplie linéairement et dans le temps, ça prend du temps de parler. Et ces principes, au fond, il les met déjà au travail dans un séminaire qu'on avait travaillé ici, qui est le séminaire 3, où il fait appel à Saussure comme linguiste, mais aussi à Jacobson à d'autres moments. Alors, tout ça pour vous rappeler, parce que, au fond, je me suis rendu compte qu'il y avait une astuce, si je peux dire, dans le départ de ce grave du désir, c'est que on sait que Lacan, au fond, a tordu le signe linguistique que le linguiste Ferdinand de Saussure avait élaboré dans sa linguistique structurelle. Saussure disait, au fond, les mots dans la langue, ce sont les rapports d'un signifié, petit s, à un signifiant, grand s, petit a. Et il avait donné comme image celle d'un arbre, qui était au fond le concept, sur ce qu'il appelait l'image acoustique, qui est ce qu'il appelle après le signifiant. Et donc l'image acoustique, il faut bien entendre par là le son de la parole, qui est en rapport avec le concept. Donc je mets les flèches dans les deux sens, ici. Alors Lacan, ce qu'il a dit, c'est qu'au fond, le plus important, c'était pas le signifié comme Saussure le symbolisait en le mettant au-dessus de la barre, mais c'était le signifiant. Donc il l'a vraiment inversé. Il a dit c'est le signifiant qui est primordial et le signifié moins important. Et donc c'est en partant de ce travail de Ferdinand de Saussure qu'il a commencé sa réflexion. Il s'est dit aussi, donc à ce moment-là, il est dans un temps où il réfléchit sur signifiant et signifié. Mais quand il va élaborer le grave du désir, dans le début du séminaire 5, il met bien en garde sur le fait que les flèches qu'il représente ne sont plus un rapport du signifiant et du signifié, mais que les deux flèches, à savoir la première que j'ai sortie ici, que on symbolise par S, S', la chaîne des signifiants. Donc cette première flèche et la deuxième flèche que vous voyez ici qui fait une croche finalement, c'est deux flèches qui parlent du signifiant. Donc il est sorti du rapport signifié-signifiant pour exprimer deux façons dont le signifiant, deux états, deux fonctions du signifiant. Donc ça, je crois que c'est important à saisir parce que c'est un décalage par rapport au premier temps de son travail sur le travail de Ferdinand de Saussure. Alors, son idée est qu'au fond, je reviens un pas en arrière, ce rapport entre les signifiants et les signifiés, c'est deux courants de la parole qui voyagent un peu en sens inverse et qui sont au fond dépendants relativement l'un à l'autre. C'est-à-dire quand je parle, chaque fois que j'ajoute un mot, tant que vous n'aurez pas jugé que j'ai fini ma phrase, eh bien c'est censé influencer le sens de ce que je dis, c'est-à-dire le signifié. Et qu'est-ce qui fait accrochage entre le signifiant et le signifié et qui permet qu'on se comprenne? C'est la notion qu'il a amenée de point de capiton, ce point de capiton qui, dans le graphe, se situe ici, à cet endroit-ci, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, ce point de capiton qu'il a emprunté, au fond, à la métaphore d'un métier de l'époque, les matelassiers, les gens qui faisaient des matelas, et qui, à un moment, dans les deux épaisseurs des matelas, comme on voit les deux épaisseurs signifiant, signifié, eh bien, faisaient un point pour que ça arrête de glisser. Et c'est ça l'image du point de capiton, au fond, c'est qu'est-ce qui va permettre qu'il y ait accrochage entre les signifiants, les images acoustiques, comme aurait dit Saussure, et le fait qu'à un moment, ça fait sens. Donc ça, c'est le départ, au fond, de sa toute première flèche. Il s'est appuyé aussi sur Jacobson, mais ça, je ne vais pas vraiment le développer ici, mais je vous donne simplement l'idée que cette parole qui se déplie dans le temps, Jacobson, c'est ce qu'il a appelé l'axe syntagmatique, c'est-à-dire le sens de la parole qui se déplie, les mots qui se succèdent et que ça permet notamment la combinaison des mots, la contiguïté des mots et le principe de ce que Lacan a repris autrement de la métonymie. Alors, au niveau finalement de cette première flèche, je pense que je vous ai dit le principal. Maintenant, je vais en venir à la deuxième, parce qu'il me semble que pour pouvoir accrocher justement le point de capiton, j'étais obligée de vous en parler de deux et pas d'une seule, qui est au fond celle-ci, qui est le signifiant vu autrement, avec un moment ici de croisement où ça va faire sens. Alors, que dit-il quand il reprend ces deux flèches uniquement sur le versant des signifiants? Il nous dit au fond, la toute première flèche ici, c'est une flèche qui, donc c'est le déroulement de la parole, et elle permet tout ce qui est imaginable, moi j'ai envie de dire entendable, écoutable, au niveau de la métaphore et de la métonymie. Au fond, sur cette flèche, quand on parle, rien n'est encore fixé, tous les effets sont possibles, et c'est donc un niveau du signifiant où on peut assister à toutes sortes, par exemple les lapsus, les jeux de mots, tout ça se passe selon la façon dont vous allez ponctuer cette parole et cette flèche du signifiant. Et donc c'est un niveau qui est très créatif, contrairement à l'autre niveau dont on parlera tout à l'heure, et où il y a énormément de possibilités. Tandis que la deuxième flèche, celle qui va permettre de donner sens finalement à la parole, c'est-à-dire au fond, Lacan dit le sens vient dans une phrase du fait qu'elle se termine. C'est parce qu'à un moment, vous décidez qu'elle se termine la phrase que vous pouvez lui donner un sens. C'est un effet d'après-coup. Et donc cet effet d'après-coup, il se voit ici. Au fond, quand vous décidez que la phrase se termine, ça fait un effet retour, un point de capiton qui vous permet de comprendre le sens de ce qui a été dit jusque-là. Alors, ce discours, dit Lacan, est un discours rationnel qui intègre déjà des points de repère au niveau des emplois du signifiant. C'est-à-dire qu'au niveau des emplois du signifiant, il y a déjà des usages que vous repérez comme des usages fixes du signifiant. C'est un discours de la réalité, d'une réalité qui nous est commune relativement à tous, en tout cas tout névrosé, j'ai envie de dire, avec le moins de création de sens possible, puisque le sens est déjà amené d'une certaine façon par les signifiants. C'est ce qui permet que dans une société, une culture, on se comprenne plus ou moins. C'est aussi ce qu'il a appelé le niveau du discours vide. Quand on parle en séance, vous avez peut-être déjà entendu que Lacan distinguait la parole vide et la parole pleine. C'est tout le blabla qu'on peut dire. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Vous allez me comprendre, ça reste du blabla. Et c'est aussi ce que Lacan dit être le discours concret du sujet. Alors, les deux points de coupure, et je m'arrêterai là aujourd'hui, au fond, qui est le premier point de coupure, ça coupe en un premier point et ça coupe en un deuxième point. Donc, ce premier point de coupure, c'est au fond, quand le sujet, qui n'est pas encore un sujet, il l'appelle d'ailleurs la sujet, privé d'être sujet, qui se trouve ici, je peux l'écrire d'ailleurs, c'est une terminologie qu'on trouve chez lui, la sujet. Donc, quand celui qui adresse une demande, une première demande, rencontre le champ des signifiants, il rencontre au fond, d'une part, en ce point-là qu'il a nommé alpha, mais qu'il nomme le grand autre, et je crois que c'est celui-là qu'il faut. Alpha, c'est vraiment la toute première notation, ça vient de ces graphes précédents. Donc c'est vraiment le lieu du grand autre, grand A. Il rencontre donc le faisceau des emplois, le code, il dira c'est pas tout à fait le code, mais c'est le code est par contre dans le grand autre, ce qu'il a appelé le trésor des signifiants. Donc lorsque la demande rencontre ce trésor des signifiants, on passe par les signifiants, eh bien à un certain moment, quand l'effet de sens va se faire ici, vous aurez en ce point ce qu'il a appelé dans la notation très ancienne gamma, mais qu'il a appelé aussi le lieu du message. C'est au fond à cet endroit-là, M, le lieu du message s'établit. Alors, il nous dit que ce lieu du message, au fond, de quel message s'agit-il? Pas grand-chose si c'est de la parole vide. Parce que très souvent, mais je le déplierai peut-être plus en détail, mais c'est pour vous l'amorcer, très souvent, notre blabla, on ne dit rien de particulièrement vrai, il n'y a pas une vérité qui s'énonce, il est court-circuité bien avant. C'est ça qu'il montre au fond, c'est une autre façon de faire la... En fait, il court-circuite ce qui pourrait être l'émergence d'un message, d'une vérité du sujet. Et c'est ce qui nous fait parler tous les jours couramment, c'est cette fameuse parole vide qu'il indique de bêta. Il dira c'est le jeu de l'énonciation, c'est quand dans un discours je dis je, à bêta prime, qui vise au fond l'objet du désir du sujet, mais ça on y reviendra plus loin. L'important, c'est de retenir finalement cette première flèche qui permet l'établissement d'un message. Et pourquoi est-ce que ça permet l'établissement d'un message? Parce que ça ne le permet pas tout le temps. On voit bien que pour des sujets psychotiques, ça pose problème. C'est qu'en fait, agit là la fonction du nom du père, le nom du père en tant que fonction, et que cette fonction produit un sujet barré, que j'ai noté ici. C'est-à-dire un sujet qui dit oui à la loi du symbolique. Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. Alors, je vous présente aujourd'hui Jean-François Lebrun. Jean-François Lebrun est psychanalyste à Mons. Il est également intervenant au Courtine. Il est enseignant à la section clinique de Mons. Et il travaille également à l'hôpital Bon Secours. À la clinique de Bon Secours, près de la frontière française, hein, entre Mons et la frontière française. Et Jean-François Lebrun va nous parler aujourd'hui des séances 19 et 20 du séminaire 8, sous le titre « Le mythe d'Œdipe aujourd'hui », et ce sera la première partie de ce volet. Merci.
Voilà. Alors, quelle doit être la position de l'analyste pour répondre au phénomène du transfert? Comment y faire avec le désir, pour autant que l'homme y est lié par ses symptômes? Bien, dans ce groupe de 4 chapitres, dont je commenterai aujourd'hui les 2 premiers, Lacan, pour y répondre, n'a pas hésité à affronter des odeurs de sacristie. Pour aborder ce qu'il en est aujourd'hui du mythe d'Œdipe, il a fait un commentaire de la trilogie des Coufontaines d'un auteur qui professe d'être chrétien, Paul Claudel, qui professe d'être chrétien. Retenez cette expression. Mais avant cela, un séminaire de Lacan, celui-ci, c'est un chantier. On y trouve donc une série d'avancées, des approches de concepts. C'est ainsi que, concernant la place de l'analyste, Lacan avance ceci, que c'est à la place même où nous sommes supposés savoir que nous sommes appelés à être. C'est la première fois qu'il parle ainsi du sujet supposé savoir, notion qui se trouvera théorisée par la suite. Dans cette même page, vous avez une tension entre le vide et la présence. Entre la présence de l'analyste et le vide. Il faut que nous tenions la place vide, tout comme il avait dit plus haut dans le séminaire, parlant de Socrate, ceci, pour lui, il n'y a rien en lui qui soit aimable. Son essence est cette oudaine, ce vide, ce creux. Voilà ce que doit présenter l'analyste, une place vide. Pour que l'analysant puisse approcher l'énigme du désir. À partir de là, le désir de l'analyste est un désir qui ne veut rien. Qui ne veut rien d'autre que savoir ce que ça veut dire. Le kevoy amène le sujet à affronter la cause de son désir. Alors après avoir approfondi, comme dit Lacan, la définition scientifique au sens le plus large, celle qui a été tentée par Socrate, de ce que c'est que le désir de l'homme, il en arrive à l'expérience tragique. Dans la tragédie, c'est la question du destin qui se pose. Le destin de l'homme. Alors, la tragédie antique décrit le destin au temps où il y a un dieu du destin. Le héros antique est identique à son destin. Il est tout bonnement conduit à l'accomplir. Prenons le mythe d'Édipe. Le héros accomplira l'oracle, quoi qu'il arrive, de toute façon. Il tuera son père, couchera avec sa mère, et il fera tout ça dans l'aveuglement. Dans la tragédie contemporaine, par contre, il se passe que le dieu du destin est mort. Ce qui fait un dieu plus féroce, c'est la tragédie du désir. La tragédie de Claudel fait apercevoir pour Lacan la constitution du sujet du désir. Alors que l'Œdipe de Freud n'est pas encore connu, il y a là une consubstantialité, une articulation qui est avancée entre la dimension du désir et le père. Le désir, en effet, suppose la béance ouverte par la mort du père. Abordant la trilogie de Claudel, Lacan y voit les trois moments de la configuration du désir. Et il n'y est question que du père. Alors, demande Lacan, Claudel savait-il ce qu'il faisait ? Lui qui écrit ça dans les années 1908-1916 à peu près, à l'époque de tous ces articles de Freud où il amène l'Œdipe, savait-il ce qu'il faisait ? Du moins, il le croyait. Quoi qu'il en soit, c'est écrit, poursuit Lacan. Une chose pareille a pu venir au jour de l'imagination humaine. L'œuvre de Claudel, Lacan la nomme une tragédie que j'appellerai provisoirement chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'elle ne propose nulle rédemption. Vous avez donc trois pièces. Dans la première, l'otage, le sujet, signe de Coufontaine, subit la marque du signifiant. Dans la seconde, le pain dur, il en résulte un objet totalement rejeté, non désiré. C'est Louis de Coufontaine, le fils de Signe. Alors dans la troisième, le père humilié, qu'en est-il à la troisième génération ? La seule vraie, dit Lacan. Nous arrivons à la configuration du désir. C'est l'héroïne, pensée de Coufontaine, la fille de Louis. Donc c'est une histoire de trois générations d'une famille. Trois drames historiques, mais sous couvert de nous présenter une intrigue qui se déroule après la Révolution, sous l'Empire, puis sous la Restauration, et enfin sous le Second Empire, il s'agit de bien autre chose. En plus de sentir la sacristie, c'est nettement réactionnaire. Claudel le sentait bien d'ailleurs, qui écrivait à Gide ceci pour l'otage, la première pièce. Ce drame a décidément une couleur royaliste, féodale et réactionnaire trop accentuée. Il est impossible à un fonctionnaire du gouvernement, c'était son cas, de le signer. Je serai à la merci d'une dénonciation. Je voudrais donc simplement signer Paul C. Il a peur d'avoir des ennuis. Et donc, là où Georges Bataille, par exemple, lui, recourait à un pseudonyme pour ses écrits sulfureux, Claudel, lui, pour ses écrits d'un catholicisme réactionnaire, il signe simplement de ses initiales. Lacan, toujours aiguisé sur la question du signifiant, et lisant cette correspondance entre Claudel et Gide, tombe sur quelque chose de particulier. C'est que Claudel veut absolument qu'on imprime Coufontaine, donc en majuscule, en capitale, avec un accent circonflexe sur le U majuscule, ce qui n'existe pas en français. Et Claudel, dans ses lettres, dans le courrier qu'il échange avec Gide, maintient son histoire. Il veut absolument ça, si bien que Gide finira par devoir commander en Angleterre, je crois, des U accents circonflexes en capitale qu'on aura spécialement coulé à cet effet. Bon, Claudel, ce poète, je vous en dis quelques mots parce que si vous allez lire ces pièces, et je trouve qu'il faut vraiment aller les lire, vous allez voir dans une alternance un langage châtié avec un parler populaire. Chaque mot est posé, pesé. Et aussi, les noms des personnages sont un peu chantournés chaque fois. Il y a une recherche expressive. Pour Claudel, comme il dit, les mots ont une âme. Et entre le signe écrit et la chose signifiée, il y a un rapport. L'essentiel, c'est ce qu'il appelle la commodité expressive et phonétique. Il évoque ainsi, je cite, « un des problèmes fondamentaux de la poésie et du langage, sur lequel il n'est pas un ouvrier de la plume qui n'ait été amené à méditer, je veux dire les rapports du son et du sens, de la lettre et de l'esprit, de l'idée et de sa représentation sonore et graphique. » Sonore et graphique. Telle qu'elle est dessinée par notre appareil sonore ou par un mot conventionnel que je trace sur le papier. Donc il est attaché aux affaires étrangères, il a voyagé un peu partout, à Prague, à Rome, en Chine, et il a eu l'occasion de s'interroger sur ces langues-là, sur le chinois en particulier. Alors tous ces noms de personnages sont construits pour que la graphie, donc ce qui se lit, et le son véhicule quelque chose qui vient spécifier la position du personnage. Lacan s'attache à cet aspect de l'écriture de Claudel. Pour lui, les noms des personnages claudéliens sont là pour nous indiquer qu'ils sont à interpréter comme des moments de l'incidence du symbolique sur la chair elle-même. Prenons l'orthographe de signe. Je vous lis page 356. Signe. Le mot commence par un S et il est vraiment là comme une invite à y reconnaître un signe. Il y a en plus ce changement imperceptible, la substitution de l'Y à l'I. L'on pourrait reconnaître dans cette surimposition de la marque notre S barré. Par quoi je vous montrais que l'imposition du signifiant sur l'homme est à la fois ce qui le marque et ce qui le défigure. Alors, signe de Coufontaine. Coufontaine, signe qui passe sa vie à essayer de recoudre quelque chose. Elle va employer son existence à reconstituer ce domaine familial qui a été démembré par la Révolution. Les Claudel possédaient d'ailleurs un domaine dans la région, la ferme de Bellefontaine. Donc il y a sans cesse des raccords comme ça dans les écrits de Claudel. On peut ainsi s'interroger sur chaque personnage et sur le nom de chaque personnage. On a le cousin du signe, le Georges le Vicomte de Coufontaine. Certains commentateurs font le lien avec Cadoudal, ce dirigeant chouan, vendéen, qui s'appelait Georges aussi, royaliste pourchassé par la police de Bonaparte. Vous avez cet horrible personnage de Toussaint Turlure, hein, surtout aujourd'hui, maintenant, ça nous fait penser immédiatement à Toussaint l'Ouverture, ce général noir, libérateur de l'île de Saint-Domingue et capturé par les troupes de Bonaparte. Autre connotation, il y a un chant de fable médiévale qui s'appelle « Aucassin et Nicolette », donc écrit en ancien français, et à un moment donné, l'action se situe dans un domaine ou un château qui s'appelle « Torlor », et dans certaines traductions, c'est rendu par « Turlure ». Et ce château de Turlure, dans le chant de fable, représente quelque chose comme l'inversion généralisée de toutes les valeurs. Vous avez encore des tas d'autres connotations possibles. On a pensé pour Turlure à un Talleyrand, un type qui traverse tous les régimes comme ça, ou un Fouché, le chef de la police. Claudel, d'un côté, par une certaine branche de sa famille, il est de la noblesse, et il est roturier par l'autre. Élevé dans la religion, il n'est pas vraiment un convaincu, jusqu'à ce jour de décembre des années 1886. Il raconte ça, il cherchait l'inspiration. Et je le cite, « Je commençais alors à écrire, et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées comme un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. » Voilà ce qu'il cherche. Donc il trouve un peu kitsch, un peu décadent d'entrer dans une église, d'assister à l'office, ce qu'il fait. Et à la suite de quoi, il va avoir une sorte de révélation de la foi religieuse. Il va devenir donc d'un catholicisme extrême, mais très particulier. D'ailleurs, on voit bien dans sa correspondance avec Gide, il n'arrête pas d'essayer de convertir Gide et lui envoie des lettres enflammées, édifiantes, où il lui expose les bases de la foi catholique. On voit ça dans ce courrier. Et Gide, lui, tente de parler d'autre chose et de parler de ce qui les occupe tous les deux, à savoir la NRF, la Nouvelle Revue Française, les livraisons de livres, les publications, etc. À propos de l'otage, Claudel écrit ceci. J'ai voulu donner un spectacle de force contrariée dont aucune, pas même le pape, qui joue le rôle principal, pas même Dieu, n'a le champ complètement à elle. Voilà déjà une idée de cette croyance un peu particulière qui est la sienne. Ça peut dire que Dieu n'a pas complètement le champ libre dans sa trilogie. Vous avez donc ces trois temps relevés par Lacan pour que se réalise la configuration du désir. Trois générations suffisent, dit Lacan. Alors l'otage, comme je vous l'ai dit, premier temps, signe, tout comme Georges de Coufontaine, ce sont des ci-devants, donc des gens de l'Ancien Régime, des gens de la noblesse, des représentants du monde d'hier, de ces valeurs-là. La mystique de la terre, des ancêtres, la royauté, tout ça chapeauté par Dieu. Georges, donc, c'est un immigré, un conspirateur. Il est recherché. Et bien que cousins, ils se promettent l'un à l'autre. Georges est complètement seul. Il a perdu sa femme et ses enfants, emportés par une épidémie. Sa femme, d'ailleurs, était la maîtresse du dauphin. Un dauphin qui n'existe pas et que Claudel a sorti de son imagination. Il a pris en otage le pape, Pie. C'est pas mal trouvé quand même pour un pape, Pie. Le Père suprême, représentant sur terre du Père céleste. Donc, la révolution a mis en pièces le domaine familial que Signe va passer sa vie à tenter de reconstituer. Toute sa famille a été massacrée sous la terreur. Par qui? Par Turlure. Turlure, en plus, est son frère de lait. C'est-à-dire qu'il est le fils de la nourrice de Signe, fils de la servante de la famille. De la nourrice et d'un bûcheron un peu sorcier. En plus, Turlure, c'est un moine défroqué. Et maintenant, il est devenu baron d'Empire, une fripouille, un personnage sans scrupules. Signe et Georges sont vraiment deux abandonnés de l'histoire universelle. Alors, il y a au mur une vieille tapisserie en lambeaux représentant l'écu des Coufontaines. Georges plaisante et dit à Signe « Épouse notre frère de lait » en montrant la tapisserie. Ça égayerait cette vieille peinturlure. Et c'est ce qui va arriver. L'instant d'après, Turlure débarque. Il fait sentir Racine qu'il sait très bien que Pi est planqué dans le placard. Il fait du chantage au mariage, sans quoi il va s'emparer du pape. Vous avez le curé du coin qui va intervenir dans la scène suivante pour la convaincre de sauver le Saint-Père. Et donc, elle qui a sacrifié sa vie pour sauver les valeurs et l'honneur de la famille, la terre, le nom, elle qui vient de donner son cœur à son cousin, voilà ce qu'on lui demande, elle doit épouser le boucher de 93, tout couvert du sang des miens. Pendant toute une scène, elle se défend en disant au curé Badilon, est-ce à moi de sauver Dieu? Et l'autre répond, il ne l'exige pas. Jésus, mort sur la croix, n'était pas obligé. Mon enfant, sondez votre cœur. On lui demande de renoncer à son être même. On lui retire tout désir. C'est, dit Lacan, contre tout ce qui la détermine, que par un acte de liberté, vous n'êtes pas obligé, elle va contre tout ce qui tient à son être, jusqu'en ses plus intimes racines. Épouser Turlure, c'est aussi adhérer au devoir du mariage comme devoir d'amour. En plus, elle doit l'aimer. Signe deviendra donc baronne Turlure. Défaite de l'Empire, Turlure trahit son camp et remet les clés de Paris à l'émissaire du roi Louis XVIII, qui n'est autre que Georges de Coufontaine. Mais il les remettra à une condition. C'est que la dernière chose qui reste, à savoir le nom, Coufontaine, passe à Turlure. Le baron d'Empire deviendra donc Toussaint Turlure, comte de Coufontaine. L'affaire, une fois conclue, Georges veut se venger. Il y a un échange de coups, de pistolets. Signe se porte au-devant de la balle qui va tuer son mari. Pour Lacan, voilà un suicide. Elle n'a rencontré que la déréliction absolue, l'abandon des puissances divines. Et à cette tragédie, il y a deux fins, dit Lacan. La première, complètement bouffonne. Vous avez le roi qui entre, les deux cadavres de Signe, et Georges, parce que lui a été atteint par la balle. Ils sont encore chauds. Le roi félicite Toussaint et reconnaît en lui le plus utile de mes sujets. Donc voilà, nous sommes rentrés dans le règne de l'utile. Et cette image d'Épinal dérisoire, comme dit Lacan, montre à quel point Claudel n'attend rien d'un retour à l'Ancien Régime, comme ce sera le cas de la Restauration. La seconde fin, c'est la mort de Signe. Badilon se précipite pour lui amener les secours de la religion, avant qu'elle trépasse. Signe se trouve prise alors d'un tic, un mouvement de tête comme un petit symptôme qui ne s'arrêtera plus. Ce que Lacan nomme la grimace de la vie qui souffre. Elle va se consumer dans ce nom de la tête, non à tout. Non à faire ses prières, non à l'absolution, non à pardonner, non à voir son enfant nouveau-né. Elle ne veut même pas voir son enfant. Par ce nom, dit Lacan, le sacrifice de Signe aboutit à la dérision absolue de ses fins. Elle s'était vouée aux valeurs familiales, la famille, la terre, tout ça. Pour sauver le Saint-Père, elle a trahi ses valeurs, renié ses engagements, elle a renoncé à son être même. Ce nom final est pour Lacan un refus d'assumer comme une jouissance ce à quoi elle a consenti. Ce sacrifice. Elle incarne le caractère mortifié du signifiant. mais aussi la dérision du signifiant. Cette dérision, parce qu'elle est amenée vraiment à la négation totale de tout ce qu'elle pouvait poursuivre. Et donc, une chose pareille a pu venir au jour de l'imagination humaine. Et de la part d'un fervent chrétien comme Claudel, c'est pas très très catholique tout ça. On est loin d'un happy end religieux, du sujet qui se réconcilie, etc. Tout ça, non. C'est ce que Lacan appelle un christianisme de désespoir. Son désir de signe était de se sacrifier aux valeurs elles-mêmes révolues, toutes ces valeurs d'Ancien Régime. On lui dit « Abandonne tout cela, renie ta promesse et sauve le Saint-Père. » Il faut donc épouser ce hideux personnage. Mais en plus, il aurait encore fallu qu'elle jouisse de ce mariage, qu'elle aime Turlure. Et c'est ça, ce nom. Ce signe de tête qui équivaut à un nom. Et se dire non, Lacan le rapproche de la fameuse exclamation d'Édipe lorsque tout se révèle à lui. Il a tué son père, épousé sa mère, et il s'exclame « Mes funailles, plutôt ne pas être, puissais-je n'être pas né ?» Dans cette négation, dit Lacan, on trouve la place véritable du sujet de l'énonciation, du sujet Édipe, qui dit « N'être pas dans le pas », voilà la place du sujet de l'énonciation. S'il dépasse Édipe, ce n'est pas une parole, c'est un tic, c'est un signe de tête. Dans ce dialogue au cours duquel Badilon convainc Signe d'épouser Turlure pour sauver le pape, on voit bien que Signe se défend pied à pied. Au fond, elle sait que Dieu est mort. En effet, Signe, que Dieu prenne soin de cet homme, c'est le pape, comme à moi mon devoir est envers les miens. Ça, c'est son désir. Plus loin dans le dialogue, et il faut que ce vieillard reste vivant. Ce vieillard qui n'a plus que le souffle à rendre. Plus loin, dois-je sauver le pape au prix de mon âme? Et elle répond encore, est-ce à moi de sauver Dieu? Et puis elle acceptera donc. Sauver Dieu, c'est être garante de Dieu. Donc c'est que Dieu est mort. On lui demande de garantir le Verbe qui s'est fait chair. Claudel nous montre ainsi un sujet, pure victime du langage. Elle accepte ça, mais quelque chose va avec cette acceptation, devrait aller avec. C'est la jouissance. À l'héroïne de la tragédie moderne, pour Lacan, il est demandé d'assumer comme une jouissance l'injustice même qui lui fait horreur. La seconde pièce, qui s'intitule « Le pain dur », parce qu'il y en a un qui va avoir le pain dur, c'est Louis, le fils de Signe, celui-là qu'elle n'a pas voulu même voir avant sa mort. C'est le temps d'eux, donc, le temps de l'enfant complètement rejeté, l'objet rejeté. Voilà ce que dit Louis dans un dialogue avec son père, Turlure. Ma mère a mieux aimé mourir que me voir. Et mon père, dès que je suis né, a mis tout son cœur à me détester. Voilà le statut de l'enfant pour ses deux parents. Et dans le dialogue avec son père, on a ceci. Louis, pourquoi faites-vous que je ne puisse aller nulle part sans que vous me barriez la route? Turlure, il n'y a pas besoin de deux Turlures. Tu es le Turlure concurrent et successeur. Louis, mon père qui m'avait fait, expliquez-moi pourquoi. Il adresse ça à son père. Turlure, je n'avais aucun besoin de te voir. Louis le traite encore de vieux turlupin. Voilà ce que c'est pour Louis pour Louis, son père, Turlure, un rival. Louis a en effet essayé de renouer avec un attachement à la terre, mais pas celle de ses ancêtres. Turlure l'en a spolié. Louis est parti exploiter une terre en Algérie, la Mitidja. Mais ce n'est plus une terre d'attachement mystique, comme c'était le cas pour Signe, sa mère. C'est une terre d'exploitation, une terre qu'on exploite et qui doit rendre. Il est accompagné de son amante, la belle polonaise Loumir. Claudel insiste sur la prononciation. Loumir, il faut prononcer comme ça, ça s'écrit L-U-M-I, accent circonflexe, de nouveau R. Lumière. Turlure, quant à lui, entre-temps, il est devenu pair de France sous la Restauration. Il n'est plus qu'un vieillard imbécile, une vieille canaille, méchant, avare, avide. Et il vit avec sa maîtresse, Sichel, une juive. En fait, elle est son esclave. Il se sert d'elle pour tenir ses livres de contes. Et elle, qui est musicienne, Turlure l'empêche de s'approcher du piano. Louis revient d'Algérie pour demander à Turlure la somme nécessaire pour payer ses dettes et aussi pour rendre à Loumir l'argent qu'elle avait elle-même pris aux nationalistes polonais afin de l'aider. En fait, Turlure, ce vieillard libidineux, lorgne sur Loumir. Il voudrait bien se l'envoyer. Sichel, par contre, va souffler à Loumir l'idée d'avoir la peau du vieux. Voilà, ça c'est le père. Tu es Turlure. En échange de quoi, Loumir, pour récupérer l'argent des nationalistes, elle glisse à Sichel, si elle veut, elle peut partir avec Louis. Sichel aime Louis. Louis ne pourra pas la retenir. Elle va rejoindre les nationalistes. Et donc on va assister à un parricide. Loumir remet à Louis 2 pistolets en lui faisant croire que le petit seulement est chargé à blanc. Devant le refus obstiné, réitéré de Turlure face à la demande d'argent de Louis, Louis, voilà, je vous lis là, la fin de cette scène-là, tire à la fois avec les 2 pistolets. Les 2 coups ratent. Turlure reste un moment immobile et les yeux révulsés. Puis la mâchoire s'avale et il s'affaisse sur un bras du fauteuil. Ça, c'est sa grimace à lui. Donc, Turlure meurt de trouille. Au cours de la querelle, le vieux avait dit, il n'y a pas besoin de 2 Turlures. Donc, le fils tue le père et part avec la compagne du père, qui n'est pas sa mère, laquelle est morte, c'est signe. Aussi bien, dit Lacan, y a-t-il là une nouveauté? Je veux dire, quelque chose qui, par rapport à cette singulière partie que nous appelons complexe d'Édipe, en rajoute dans Claudel. Sichel n'est pas la mère. La mère est morte, hors de jeu. Ainsi, du personnage de la mère se détache celui de la femme du père. Situation qui est devenue très contemporaine. Cette démolition du guignol de père, comme dit Lacan, c'est quelque chose d'assez bouffon. Louis fait les poches de son père, chausse ses bottes et entre dans le même lit que lui. Il deviendra un nouveau Turlure et se fera même ambassadeur, comme Claudel. Voilà cette étrange comédie, comme dit Lacan, après l'épouvantable tragédie de Signe de Coufontaine, et ici, c'est aussi une dérision radicale. Alors, tous ces personnages, ils sont un peu Claudel. Hein. Signe, c'est Claudel. Georges, c'est Claudel. Turlure, c'est Claudel. Louis, Claudel a aimé une Polonaise qui est partie mourir en Pologne. ce que nous avons ici avec ce meurtre du père, tout à fait freudien, c'est même le point limite du mythe freudien. Dans cette seconde pièce, ce turlure dérisoire et abject est le père humilié. Louis deviendra un nouveau turlure, mais auparavant, il lui aura fallu renoncer à son objet d'amour, à Loumire. Loumire l'aime, et il l'aime. Mais d'y renoncer, c'est la castration de Louis. Il partira avec Sichel, la femme du père. Cette femme va réhabiliter, par le désir, l'enfant non désiré. Le désir est ainsi réintroduit dans le circuit familial, ce qui ouvre donc la voie au troisième temps, celui de la configuration du désir avec pensée de Coufontaine. On discerne avec Lacan, lecteur de Claudel, un lien entre le désir et le père mort. Au centre de cela, il y a la castration. Car la castration, dit Lacan, est identique à ce que j'appellerai la constitution du sujet du désir comme tel. La castration, on retire au sujet son désir et en échange, on l'envoie sur le marché, où il passe dans l'encan général. On retire à Louis Loumire et il passe à Sichel. Mais aussi, on retire à Signe Georges, et là, elle a dû passer à Turlure, ce qu'elle peut le plus abhorrer. Et ça a produit ce nom final. Par rapport à Loumire, la belle Polonaise, Lacan dit qu'elle va vers son destin, qui est celui d'un vrai désir de personnage claudélien. En laissant tomber Louis pour regagner la Pologne où elle trouvera la mort, Lacan dit que ce désir est un désir de mort. On peut faire pour Loumire et pour Signe une même remarque. Ce sont deux sujets capturés par un signifiant maître, un idéal. C'est chaque fois un désir qui méconnaît sa cause dans le réel sexuel. Quelle est la position que Lacan indique pour l'analyste ? Le patient vient avec ce dont il a à se plaindre, son ratage, ses symptômes. Or, nous pouvons voir, dit Lacan, dans les symptômes, une figure qui a rapport à la figure du destin. Et comme analyste, nous entrons dans le destin du sujet. Cette évocation du mythe d'Édipe aujourd'hui n'est pas sans évoquer le mythe individuel du névrosé, qui est une expression forgée par Lacan pour montrer que la problématique d'un sujet est déterminée par ce qui s'est passé aux générations antérieures. Parler de mythe, c'est dire qu'il y a une cohérence signifiante entre les constellations. Avec la mise à jour dans l'analyse de ce mythe individuel, on est sur la voie, sur le chemin qui mène vers le fantasme. L'analyse est une construction de savoir, et l'introduction de ce savoir aura des effets sur le destin, sur le mythe. Des effets qui vont dans le sens de s'en détacher et d'en faire avec. Voilà.
Bien, vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup. Parce que tu nous as d'abord très bien resitué toute l'histoire de cette tragédie en trois parties. Et les questions sont un peu floues encore pour moi, mais peut-être une toute première question. Quand Lacan, au fond, va pointer cette œuvre, que moi je découvre, je ne la connaissais pas, Est-ce que c'est un moment où il y a déjà tout un travail qui a été fait de repérage sur cette œuvre dans l'histoire de la littérature, ou est-ce que ce travail a été fait après, ou est-ce que c'est encore une œuvre à explorer tellement elle est riche, parce que enfin, j'ai juste relevé, tu parlais par exemple de ce changement entre Coufontaine et Bellefontaine. Bon, passer de Belle à Coup, c'est intéressant. Alors, je veux dire, je suppose que ça, on peut en trouver.
Mais il y a encore il y en a encore d'autres. Hein. Voilà. Il y a une demoiselle de Saint-Signe qui se balade dans un roman de Balzac. Claudel dit lui-même que ces personnages sont balzaciens, au sens où à la fois ils sont, c'est un peu des chaque fois un idéal type d'un personnage historique comme ça, et en même temps intégralement il y a une individualité, et quelque part dans ces chapitres Lacan reprend cette idée de personnage balzacien, mais lui il voit ça autrement. Pour lui, un personnage balzacien, c'est plutôt un personnage qui met en avant la logique du signifiant s'entrelace avec la jouissance, l'argent. Et donc, Turlure est vraiment le représentant par excellence de quelqu'un qui va, à travers tous les régimes qu'il va traverser, il va toujours passer à travers tout, ramasser tous les honneurs, et toujours à la quête aussi de l'argent, que jusqu'à dépouiller totalement donc son propre fils, auquel il retirerait bien, et son nom et tous ses biens. Il y a toute une partie sur laquelle je suis passé rapidement, mais il y a un personnage d'un usurier dans le pain dur, et Turlure s'arrange pour faire en sorte que la terre de Louis, donc en Algérie, va revenir à l'usurier. Donc ça va lui revenir dans sa poche. Quelque chose qui est complètement fermé comme ça. Alors, est-ce que avant Lacan, on avait lu... Bien sûr que... Moi, je ne suis pas très loin d'être connaisseur de Claudel, mais il me semble que il y a quelque chose que je voulais vous lire là. Voilà. Ce que Claudel se figure lui-même de sa trilogie. Il écrit ceci. Comme les tragiques grecs, dit-il, je crois que les limites étroites d'une génération ne suffisent pas à incarner les intentions mystérieuses de la Moïra. La Moïra, la moire, hein, c'est le destin. Donc lui, il se figure faire quelque chose comme ça. Seulement, Lacan, il va être, je pense, le seul à voir qu'au fond, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit, parce que le dieu du destin est mort. Le signe a dû aller à l'encontre de ce que les dieux avaient prescrit pour elle, dans le fond. Elle a dû aller complètement à l'encontre de ça. Et alors, Lacan, lui, il fait le joint avec Édipe, avec l'Édipe. Et il voit que les trois générations, eh bien oui, ça, on voit bien, on peut lire ce qui se passe pour un sujet, au fond, celui dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, Pensée de Coufontaine, qui vous sera présenté la fois prochaine. On voit bien quelle est la configuration signifiante qui a précédé à sa naissance. Qu'est-ce que c'est que ce père, ce Turlure numéro 2, avant un Turlure, un horrible Turlure numéro 1, le destin de sa grand-mère, signe. Voilà. Je pense que. Je crois que l'œuvre a été saluée à sa sortie par la critique littéraire, en tout cas. Lacan cite un grand penseur catholique comme Bernanos qui se serait offusqué, disons, à juste titre, du point de vue du catholicisme, de la fin lamentable de Signe, qui est un peu blasphématoire. Je pense que s'il y a un lecteur de Claudel, je pense que c'est Lacan. Enfin, Claudel est quand même un personnage assez étonnant, parce que il a ses convictions comme ça, très 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 marquées. En même temps, il y a un côté où il correspond très fort à ce que Lacan disait de ce qu'un vrai catholique est inanalysable, parce que pour lui, pour Claudel, la vérité, elle est extérieure à lui. La vérité, elle est déposée, quoi. La vérité, c'est la vérité de la religion, point. Il dit ça comme ça, et donc il n'y a pas à transiger là-dessus. La vérité, c'est la vérité, ou bien on y adhère, ou bien on n'y adhère pas. De toute façon, elle est là. Et il dit des choses aussi comme le fait que l'introspection, ben, ça n'a aucun intérêt. L'introspection, pour lui, ça n'a aucun sens. Le gnotiseoton de Socrate, par exemple, justement. Donc connais-toi toi-même. Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, il dépeint. On ne peut pas. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer à la lumière de Lacan. Il dépeint une religion avec un dieu, au fond, qui a déserté le ciel empyré. Il n'est plus là, puisque Signe doit le porter à bout de bras. Et pourtant, quand on. Dans les mémoires donc improvisées de Claudel, on voit que très tard, il continue à avancer des convictions religieuses absolument incontestables, et il reparle de cette trilogie-là comme étant, voilà.
Alors peut-être encore une chose qui m'a marquée, c'est qu'au fond, Lacan parcourt la trilogie, et si j'entends bien ce que tu nous as dit, repère à travers trois générations une constellation signifiante. C'est quand même une toute autre façon de faire qu'une approche systémique, par exemple, qui tracerait des génogrammes. Ça, c'est très interpellant du point de vue clinique. On peut, au fond, se poser la question de comment ça peut nous orienter. Et en même temps, voir que les générations précédentes, elles ne sont pas du tout exclues du processus analytique.
Tout à fait, ça c'est tout à fait pertinent la réflexion que tu fais là, je trouve.
En tout cas, c'est quand même une voie intéressante qui repère là à travers le déploiement de ces trois générations.
Oui.
On n'entend pas souvent parler de ça.
De
ce repérage signifiant, voilà. Cette notion de constellation signifiante. Au fond, voilà, en le disant, en l'évoquant là maintenant, je me dis c'est une bonne voie de recherche.
Oui. Et donc, j'évoquais le mythe individuel du névrosé, qui était réédité il n'y a pas longtemps, qui était un extrait d'un cours de Lacan, je crois, ou d'une conférence. Où, donc, à propos de l'homme au rat, justement, il montre aussi la constellation au niveau de la génération de ses parents. Où là, il y a une dette qui circule de son père. Le sujet a été prélevé ça pour en faire. À partir de quoi produire des symptômes tout à fait florissants, quoi. L'idée du père, de très très tôt chez Lacan, on a cette idée du père, au fond, insuffisant. Ici, on a vraiment, c'est poussé à l'extrait. Si vous prenez le texte, par exemple, de Lacan, qui s'appelle « Les complexes familiaux », qui date de 1938, je ne l'ai pas amené ici, mais vous avez une énumération de pères qui sont des pères insuffisants, inégaux à leur fonction, et notamment il y a le père humilié, le père insuffisant, le père carent, le père humilié, tout ça est déjà là. Je pense que Lacan, la question sur l'Œdipe a accompagné toute son, toute son existence, toute son existence.
Oui.
Contrairement au père freudien, dans le fond, Freud donne au père, attribue au père une puissance. Lacan considère une existence, c'est quand même le grand pas entre les deux. Enfin, Lacan peut dire que le but de type est inutilisable.
Voilà.
En fond, c'est que le père pour Lacan a quelque chose de turlu. Toujours. Alors que pour Freud, la carence du père, c'est pas vraiment ça qu'il, dans le mythe qu'il recueille. Bien qu'il y ait un passage, évidemment, Freud évidemment toujours prend cette place dans le transfert. Le père qui là essaye de garantir, de construire quelque chose. Alors moi, en vous disant Claudel, enfin, quand j'ai vu ça, j'avais retenu, en écoutant, ça me revenait, c'est qu'il y a une expression que j'ai trouvée très forte, c'était celle du sujet échangé contre son désir. Il dit ça dans ce commentaire, moi j'avais retenu, c'était signe. C'est vraiment le sujet échangé contre son désir. C'est-à-dire que tu as un désir, on te le prend. Et ce qui reste de toi quand on t'a pris ton désir, donc quand tu as été castré, il reste le sujet. C'est vraiment une vision un peu tragique des choses. Pas et bon. Dans ce sens-là, cette vision du sujet est évidemment forcément tragique. Lacan parle de l'otage, il y a une définition, page 359, qui est très belle. L'homme est devenu l'otage du verbe parce qu'il s'est dit, ou aussi bien qu'il se soit dit, que Dieu est mort. Donc ça, c'est une phrase, je l'ai citée tout à l'heure, qui quand même, me semble-t-il, qui situe beaucoup de choses, y compris, surtout dans la clinique. Que justement, la fonction du père, et notamment en tant qu'elle est carente. Quand il n'y a plus de père ou pas assez de père, ou forcément, si un analyste, c'est parce qu'il y a des carences du père, de toute façon. Et la position analytique, à mon avis, tout à fait capitale, eh bien, c'est on vient là parce que Dieu est mort. On n'est pas Dieu, Dieu merci. Hein? Mais s'il y avait Dieu, on ne serait pas là. C'est ou Dieu ou nous. Alors évidemment, on peut regretter. On peut regretter Dieu, d'ailleurs, peut très bien. Hein? Mais on vient là donc à cette place-là. Alors, à la place, justement, de faire en sorte que le verbe ne soit pas entièrement livré au verbe. Hein? Dans la clinique de la psychose, après tout, la psychose est une clinique du verbe sauvage, que plus rien ne limite. Et ici, le commentaire que fait Claudel, on voit ça. Hein? La pauvre signe est livré à la tirelire, si on veut, enfin, est livré à la marche du siècle. Hein? Mmh. Puis, c'est la révolution, c'est la plus-value, c'est la bourgeoisie triomphante, et hop, elle est livrée à ça. Elle est livrée à ça, et bon, parce que Dieu du destin est mort. Et ce qui lui reste, c'est avec quoi l'analyse opère, c'est avec ce qui reste de la grimace de la vie, quand on a la chance d'intervenir avant cette issue tragique.
Voilà.
On peut dire ça?
Quand on a la chance d'intervenir avant.
Oui, quand on a la chance d'intervenir, tu dis très bien qu'il y a un passage terrible dans la pièce de Claudel où le curé, je pense, Babylon, évidemment.
Oui. Ce serait presque des choses à lire ici, mais enfin, voilà.
Il dit quelque part, finalement, de mémoire, que comme elle sera mariée avec cette canaille de Turlure, et comme le mariage est un sacrement, bien, il faut non seulement qu'elle se marie, qu'elle l'épouse, qu'elle couche avec, qu'elle ait des enfants et tout ce qui fait qu'on se marie, mais en plus de ça, il faut qu'elle l'aime. Comme c'est un mari, il faut vraiment qu'elle en jouisse. Hein? C'est quand même terrible. Il s'agit qu'elle jouisse de ça. Hein? Bon. Donc, ça situe d'une façon tragique de dire la position du sujet contemporain livré au verbe, à la jouissance du verbe, et dans lequel il s'agit d'un c'est une position quand même un peu de reconfiguration, de frein, d'abri. En tout cas, on n'est pas là pour déclencher les puissances du verbe, me semble-t-il, mais plutôt pour les.
Et d'ailleurs, Lacan dit ça dans ces pages-là. Il dit qu'avec le savoir, elle est poussée dans une direction comme ça épouvantable, d'une part, mais par ailleurs, avec le savoir qui se construit en analyse, qui se déduit de l'analyse, qui s'élabore et tout ça, il y a moyen de se décaler de ce qui serait un destin pur du signifiant, comme ça, comme Philippe le décrit. Se décaler et donc d'aller vers un faire avec le signifiant et faire avec la jouissance, faire quelque chose d'autre que cette...
Au fond,
ce qui me paraît très frappant, écoutez, c'est vraiment... l'époque de Freud et l'époque de Lacan, sur ce plan-là, c'est tout à fait différent. C'est grâce à Claudel qu'on voit. Parce que, enfin, de la cause autour de sacristie, parce que une sacristie assez bizarre. Hein? C'est pas seulement parce que ici, tout de même, qu'il s'agit de jouir de puissance du verbe sans frein, surtout si on voit ça comme morale contemporaine. C'est le destin de signe, c'est ça qu'on nous propose. Et tout de même, Lacan vient dans ce climat-là. Donc d'un surmoi, d'une obligation de jouir généralisée. Et on voit que la jouissance peut prendre un peu sa gueule. On peut le dire comme ça. Alors que Freud, tout de même, j'avais oublié que la dédicace de la science du rêve, enfin l'interprétation du rêve, qu'on appelle maintenant, c'est quand même, enfin bon, pas de mémoire, mais nous allons délivrer les puissances de l'Achéron. Autrement dit, à l'époque, c'est quand même la société de l'interdit. Freud voit ça comme ça, il s'agit de libérer quelque chose contre l'interdit. Mm-hmm. Alors qu'ici, Lacan, il se bat non plus contre l'interdit, mais contre non pas un maître qui interdit, mais un maître qui oblige. Non pas un maître qui interdit de jouir, mais un maître qui oblige de jouir. C'est assez... Freud a un petit côté... côté ancien régime, ce niveau-là. Hein, dans le fond.
D'où certaines lectures erronées de Freud qu'on entend et qui iraient vers le fait il faut faire sauter les interdits, quoi. Il faut libérer les... Hein, d'accord. Libérer les barrières, les digues et tout ça. C'est une certaine lecture comme quoi ce serait la société qui vient imposer des contraintes à l'humain, etc. Lecture un peu que certains post-freudiens ont fait aux États-Unis, quoi. Et qu'on entend ici aussi. Hein.
Oui. Je me disais au fond que ce nom, quelle grimace, ce nom de signe, c'est au fond, et tu l'as mis en tension avec le mot liberté, ça reste ce qui lui reste de liberté, je pense. Mmh. Tu as dit de dire non.
Elle ne dit pas justement, mais elle le montre. Voilà. C'est un geste.
C'est ce qui reste son choix de sujet, au fond.
C'est ça.
Et je me dis, ça, c'est ce qu'on peut, quand tu dis quand on peut avoir la chance d'intervenir avant, c'est au fond ce vers quoi on tend aussi dans l'analyse, d'une certaine façon, de pouvoir conquérir ce choix de sujet. Moi, je ne sais pas.
Oui. Donc Lacan assimile cette dénégation, ce signe de, tête, avec la négation de ne pas être né. Et donc on a là la position du sujet, comme dans « Je crains qu'il ne vienne », hein, dans ce « ne », voilà, explétif, là, où Lacan situe là le sujet de l'énonciation.
Vous avez des questions ? Oui ?
Oui.
C'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'en fait le père humilié là, c'est le père mort. Et donc on parle du père mort qui n'est pas même repris comme personnage dans le père humilié.
Le père humilié, c'est la troisième pièce.
Hein, mais oui, mais Turlure n'est pas personnage.
Louis de Coufontaine, oui. Il est dans la troisième pièce.
Le fils.
Oui, le fils Turlure.
Oui, mais pas le père.
Voilà, non, pas le père. Non, pas du tout.
Donc,
qui est le père humilié ? Oui. Effectivement. Ce que Lacan amène ici, c'est de dire qu'au fond, le père humilié, qui est le nom, le titre de la troisième pièce, en fait, c'est Turlure dans la seconde pièce, dans Le pain dur. C'est lui dont tout démontre qu'on a affaire à un vieux grigou infect et qui jusqu'à tant qu'il peut, il va barrer la route à son fils. Il fait une proposition de mariage à Louis. Enfin, il fait tous des trucs comme ça. Et Lacan ajoute ceci, ce père Turlure, là, ce père humilié, il est joué au dé. On l'a joué au dé. C'est Sichel qui évoque l'idée de faire tuer le vieux, elle évoque ça avec Lumière, et Lumière balance, elle prépare les pistolets pour Louis. Donc tout le monde est de la partie, on va l'exécuter, quoi, c'est ça. Il est complètement joué.
Même Turlure, est le premier à humilier le père. Même foule la paternité au pied.
Ah, absolument, oui, tout à fait.
Dans le fond, le père humilié, ça peut se porter de diverses façons. Ça passe
tout à fait.
Le pauvre petit qui est massacré.
Oui.
Voilà. Ça peut se porter. Le père jouisseur peut être une figure du père humilié. Évidemment, ça dépend de quel. On n'a pas toujours l'idée que le jouisseur est un humilié, mais le jouisseur humilie, d'une certaine façon, foule au pied les signes dont il est revêtu.
Oui, et je pensais à cette parole de Lacan dans un temps ultérieur où il disait quelque chose comme ceci. Le père a droit au respect, sinon à l'amour. Je ne suis pas exactement certain de la citation. S'il fait d'une femme
la
cause de son désir. Et donc on voit bien à quel
point
qu'il accorde aux enfants de celle-ci soins paternels. On voit bien ici à quel point ce n'est pas le cas. Signe n'est manifestement pas la cause de Turlure. Et on voit Louis qui dans la scène où il tue son père, il vient au fond avec une demande d'amour, est-ce que tu m'aimes ? Enfin, des trucs comme ça. Et puis ça tourne à la dérision, au vinaigre, au bouffon, tout ça. Mais on voit bien que Louis n'a absolument aucun respect pour son père, qui ne mérite manifestement pas, évidemment, puisqu'il a tout fait pour lui barrer la route dans toutes les directions possibles.
Une autre question ? Oui ?
Ne peut-on pas dire que le destin, les tragédies grecques, les mythes, les genres, ce n'est pas qu'une façon d'expliquer le comportement soit des dieux, soit des hommes, louer des dieux, d'une façon que ça soit acceptable et que la cité qui voit les tragédies puisse les entendre. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas... Donc c'est la projection des êtres humains individuels que le groupe accepte à titre collectif. Elle ne voit pas que ça les concerne individuellement et le destin est là pour excuser. Edith n'est pas méchant puisqu'il ne sait pas, puisqu'il c'est le destin qui le manipule. Mais est-ce que ce n'est pas l'inconscient qui est en jeu?
Edith n'est pas méchant. Disons, la cité ne peut plus le supporter. Hein, et s'il va, il va reprendre à son compte, au fond, ce qu'il ne peut pas ne pas faire, à savoir s'exclure. Il va s'en aller sur les... Hein, il est poussé à ça par la logique même de tout ce qui s'est passé avec lui et sans lui, hein, aveuglément, comme je disais, et ce n'est pas supportable. Il me semble que c'est un destin qui traverse complètement la cité. Il y a de nouveau la peste, je crois, ou quelque chose comme ça qui se passe. Et il faut trouver le coupable. Donc l'idée d'une culpabilité, à la fois elle n'est pas individuelle et en même temps elle est écrite de tout temps. De par l'oracle qui avait présidé à sa naissance.
L'oracle, il a d'abord différentes formes. C'est pas uniquement la tragédie de Sophocle, il y a des variantes.
Tout à fait.
C'est une légende qui s'est échafaudée à travers les âges. On voit déjà dans l'Iliade.
Oui.
Citation dans l'Odyssée, et il y a des événements qui sont interpellants. Par exemple, on parle de la manière dont Édipe tue son père, donc il y a une variante ou plusieurs où il est confronté à son père sans savoir que c'est son père, et ils sont tous les deux rivaux auprès d'un jeune homme, Chrysippe. Donc ça représente du sens. Donc ils sont tous les deux confrontés comme rivaux vis-à-vis de quelqu'un qui ne préside pas prince. Donc ça c'est dans une sorte qu'on n'épuise pas le mythe. Donc à ce moment-là, ça peut créer quelque chose d'intéressant, disons.
Oui.
Mais le destin, le fantôme, c'est une sorte de façon d'expliquer. Les mythologies, dans l'Iliade, on dit que les hommes, les êtres humains se tuent, s'entretuent, mais ils sont manœuvrés comme des marionnettes par les dieux. C'est une façon humaine de voir les choses, et ce n'est pas une réalité, le fantôme. Ce n'est pas une réalité, c'est une façon d'expliquer comment ça s'est produit. Mais les hommes, inconsciemment, sont aussi sous la puissance d'un fantôme qui est leur inconscient.
Oui.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils disent dans les paroles. Et par exemple, les Grecs, quand ils disent « gnotis euton », connais-toi toi-même, je ne pense pas que ce soit... de l'introspection, mais au contraire, de savoir comment ils doivent se positionner par rapport au cosmos, par rapport aux hommes, au monde. En fait, ils mettent tout à l'extérieur. Les légendes, c'est la mise à l'extérieur, mais collectivement, de choses qui seraient intenables de l'esprit. Un conflit trop fort de se rendre compte qu'ils ont aussi des choses à l'intérieur du monde. Mais c'est projeté sur la scène de la mythologie, à mon avis, en fait.
Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre ce que vous dites du côté du... Enfin, si j'entends bien ce que vous dites, que dans le contexte historique de l'Antiquité, Au fond, ce fatum aurait eu une fonction de voiler la part inconsciente des citoyens, si j'entends bien ce que vous dites, puisqu'il donne une explication à ce qui peut être un motif inconscient de chacun. Il donne une explication des choses du monde. Donc, quelque part, il vient voiler. Et qu'au fond, ce qui fait que le mythe d'Oedipe a pris la forme, vous dites vous-même qu'il y a eu des variantes, a pris la forme qu'il a aujourd'hui, et que non seulement il a pris cette forme-là, mais qu'en plus il est récupéré, retravaillé dans des travaux comme ceux de Lacan, c'est au fond une façon, je pense à ça, ça fait écho à ce que j'ai entendu récemment, de ne pas... faire ce que, je ne sais pas si c'est Jacques-Alain Miller qui disait ça, de l'histoire d'antiquaire, c'est-à-dire de ne pas avoir une vision historique de ce qui nous parvient aujourd'hui en ne se bornant qu'à la réflexion du contexte historique dans lequel c'est apparu, mais de tout ce que ça a traversé des différentes époques et de comment c'est récupéré aujourd'hui. Voilà. Et qu'au plus c'est récupéré aujourd'hui et vers nous dans l'époque contemporaine, au plus on s'en sert dans le sens d'un dévoilement de la part inconsciente et de la responsabilité de chacun.
Bien sûr, mais ce sont des légendes, ce n'est pas de l'histoire.
Bien sûr.
Si on veut se mettre à la place des textes, ils comprennent de cette façon-là, mais on ne peut pas dire qu'on décrit encore maintenant ces légendes comme eux les présentent quand on parle de...
C'est très éclairant. Mais les Grecs mettaient toute une série de choses
à l'extérieur.
C'est tout à fait percutant. Parce que la famille, d'accord, ils n'étaient pas autre chose. Hein? C'est bien pour ça qu'ils pouvaient dire que les dieux sont dans le réel. À l'extérieur. Hein? Le réel, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité. Bon, le terme de réalité, c'est pas une réalité très de la. C'est une réalité dont ça ne se voit pas, c'est un réel. C'est un réel, tout le monde qui y croyait, qui gouvernait leur vie. Enfin, en tout cas, c'était comme vous dites, à l'extérieur. Et le mettre à l'extérieur, on peut considérer que c'est effectivement cet extérieur quand même fondamental, pour nous, à valeur de réel. Je veux dire comme ça.
Et le faisait. Pour prendre acceptable. C'est...
Ah oui, mais quelle que soit leur motivation, c'est comme ça que ça fonctionnait. Quand Lacan dit dans son texte que le dieu du destin est mort, hein, que le dieu du destin est mort, c'est que dans le réel, hein, dans le ciel, comme vous dites, le cosmos, en nos jours, était remplacé par la science. Le dieu du destin était remplacé par la science, c'est-à-dire la puissance du verbe, la puissance du signifiant. Et parce qu'on est bien d'accord que, me semble-t-il, mettre dans le réel le fantôme, ou mettre la puissance infinie des mathématiques, ça n'a pas les mêmes conséquences sur vous, sur moi, sur nous. Et Lacan se situe justement la tragédie moderne comme ça. Que se passe-t-il? Comment supporte-t-on la vie une fois que dans le ciel, il y a une puissance aveugle? Étant donné que la tragédie antique, c'était là où on se situait dans le ciel, plutôt à mesure de toute chose, l'équilibre, enfin, bon, Aristote pense tout ça.
Parce que la religion qu'on utilise, c'est pas une religion révélée, c'est une religion construite à travers les siècles par les hommes.
Voilà.
Donc c'est une projection.
Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que dans le réel, pour eux et pour nous, il y a une différence, il n'y a plus la même chose. Nous situons les mathématiques pour prendre le savoir suprême, alors qu'eux situaient le fameux fantôme. Ça a des conséquences sur notre façon de vivre. C'est plus du tout la même chose. Là, c'est ce que Jean, François, c'est plus du tout la même chose. Hein? Quand on est livré aux puissances du verbe ou quand on est livré à un Dieu qui, avec ce verbe, quand même, sera servi.
Et parfois, par antiphrase, il disait par exemple les yeux minuit. En fait, ce sont les furies, mais Euménide, ça veut dire les bienveillantes.
Voilà.
Les divinités bien pour intercéder pour.
Oui, il y avait un tas de choses.
Oui.
Aujourd'hui, c'est assez désert.
C'est assez désert, sinon que si on commence à remplacer le dieu du destin par un autre dieu que tu viens d'évoquer, qui serait le dieu de la science, c'est pas le sujet ne s'y retrouve pas davantage. C'est peut-être encore plus féroce. C'est beaucoup plus féroce.
Mais comme vous le dites, avec surtout quelque chose de la conscience qui est dans les effets. Alors que nous, il y a la puissance du verbe qui est assez éclairant, qui est comme ça. Franchement, c'est ce contraste-là que Lacan essaye de faire valoir. Parce que dans les Grecs d'anciens, il y avait le fatum. Maintenant, on sait bien que dans le ciel, il y a une série de déchets de fusée, etc. Enfin, c'est un peu une poubelle. Parce que dans le ciel, il n'y a plus la même chose. Avant, il y avait les dieux qui ont valeur de réel, il y en a assez. Maintenant, on a un autre dieu qui est la science, mais on ne peut pas appeler ça un dieu, vu que c'est une puissance infinie qui fonctionne comme ça, sans autre loi que les siennes, hein, et qui ne nous veut rien. La science ne nous veut rien. Alors que le dieu, il nous veut quelque chose, malheureux. La science ne nous veut rien.
La science ne veut rien, mais quand même, elle dit ce qu'il en est, à s'en tenir à une certaine croyance comme ça, elle veut dire ce qu'il en est du sujet, qui serait au fond la synthèse de ces cellules ou de ces neurones ou de ce qu'on voudra.
Merci pour votre commentaire. Bien, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve fin du mois. Merci.